La fameuse expression in persona Christi, et puis quelques mots de conclusion pour des suggestions, plutôt des conséquences pratiques de ce qu'on aura vu tout au long de cette soirée. Attention aux mots. Le prêtre, le célébrant, le président, ce sont trois termes différents qui désignent celui qui exerce la fonction qui nous intéresse ce soir. Prêtre, célébrant, président. Jadis, on disait, le prêtre dit la messe, pire, dit sa messe. Parfois, on disait, le prêtre chante la messe. Et puis, on a dit de lui que le prêtre célèbre l'Eucharistie. Et maintenant, on l'appelle président de l'Assemblée liturgique ou eucharistique. Et comme vous le savez, les déplacements de vocabulaire sont rarement anodins. Quand les mots changent, les représentations qui sont en dessous des mots évoluent aussi. Et en particulier, quand ce sont des mots qui désignent des fonctions ou des rôles. Appeler le prêtre, entre guillemets, un diseur de messe correspondait assez bien à une certaine pratique liturgique avant Vatican II. En effet, le prêtre en est arrivé à monopoliser la quasi-totalité des rôles dans la célébration eucharistique, et l'Assemblée se contentait d'y assister. Et donc, dans cette perspective-là, il n'y a rien d'étonnant à ce que, en parlant du prêtre, on dise sa messe, la messe du prêtre. En fait, à partir du moment où on l'appelle célébrant, on va désigner une autre fonction du prêtre. Et j'attire votre attention sur ceci, c'est que le mot célébration désigne dans notre langage courant une action festive, participative, qui est liée à la commémoration d'un fait passé ou éventuellement un fait présent, qui ne concerne pas qu'une personne, mais tous ceux qui sont présents. La célébration n'implique pas d'emblée qu'il y ait un chef. La célébration souligne la participation de ceux qui sont là pour fêter ou commémorer cet événement. Quand je dis qu'elle n'implique pas d'emblée un chef, je me situe d'un point de vue sociologique et d'un point de vue linguistique. Première remarque en introduction. Deuxième remarque, comme vous le savez bien, c'est que la situation actuelle de l'Église est marquée par le fait que les laïcs prennent de la place et même prennent toute leur place dans la pastorale des sacrements. D'autre part, la situation de notre Église, en tout cas en Occident, est marquée par la raréfaction des prêtres. Et il en arrive ainsi que certaines, comme on dit aujourd'hui, célébrations liturgiques se déroulent en l'absence de prêtres. Plus fort encore, le droit de l'Église prévoit que les laïcs peuvent, je cite le canon 1112, c'est le canon 861, conférer le baptême, administrer le baptême. 1112, ils peuvent assister au mariage. Et dans le rituel des funérailles, ils peuvent accomplir des obsèques. Donc, il n'y a pas le mot présider. Hein. Conférer, administrer, assister, accomplir. Et puis, en France, dans le directoire pour les ADAP, les assemblées dominicales en l'absence de prêtres, il est question de laïcs qui dirigent ou conduisent l'assemblée dominicale. Toujours dans le code de droit canon de l'Église, le canon 230 dit ceci, « Là où le besoin de l'Église le demande par défaut de ministre, les laïcs peuvent aussi, même s'ils ne sont ni lecteurs ni acolytes, supplier à certaines de leurs fonctions, à savoir exercer le ministère de la parole, présider les prières liturgiques, conférer le baptême et distribuer la Sainte Communion selon la disposition du droit. » Alors, on va voir tout au long de cette conférence pourquoi il est préférable de réserver le vocabulaire de la présidence au ministère ordonné et d'adopter, comme le fait le droit canon, d'autres termes en ce qui concerne le ministère des laïcs. Pour donner déjà la réponse que je vais développer, la charge du prêtre, qu'est la présidence d'une communauté, va s'exprimer théologiquement en termes de participation au ministère apostolique. Et il en va autrement pour les laïcs, dont le ministère se fonde sur le sacrement de l'initiation chrétienne et sur leur charisme particulier. Alors, on va essayer de développer cela en commençant par cette distinction que les étudiants en dernière année de théologie me pardonnent, puisque c'est une distinction fondamentale et qui, heureusement, est vue et approfondie dans bien d'autres cours dans cet institut. C'est la distinction entre sacerdoce débaptisé et sacerdoce ordonné. Je crois que vous allez mieux comprendre pourquoi je reprends cette distinction sans pour autant vouloir chercher à remonter à Adam et Ève. Parce qu'il y a beaucoup de mécompréhensions, de mauvaises compréhensions de cette distinction entre le sacerdoce qu'on reçoit tous au baptême et le sacerdoce que confère l'ordination sacerdotale, ce que le Concile appelle le sacerdoce ministériel ou parfois sacerdoce hiérarchique. Alors, je voudrais faire ce petit rappel qui, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, est extrêmement éclairant. Quand Jésus paraît, c'est ainsi que Saint-Marc met en scène Jésus, donc, puisqu'il ne mentionne pas la nativité, au moment où Jésus paraît, il y a toute une série de milieux juifs qui attendent ardemment l'apothéose du sacerdoce lévitique institutionnel. Et même, pour être plus précis, on attendait l'apothéose eschatologique du sacerdoce lévitique institutionnel. C'est très très clair dans ce qu'on appelle la littérature intertestamentaire, donc ce sont les écrits qui en fait n'ont pas été retenus dans le canon des Écritures, donc en clair ne font pas partie de l'Ancien Testament, mais sont contemporains au dernier siècle de rédaction de cet Ancien Testament. Et on le voit par exemple très nettement dans ce qu'on appelle la règle de la communauté de Qumran. Donc il y a, au moment où Jésus arrive dans notre monde, une attente très forte dans un certain nombre de milieux que le sacerdoce de Lévi, le sacerdoce lévitique, puisse enfin connaître son apothéose. Or, dans l'ensemble du Nouveau Testament, jamais Jésus ne s'attribue une qualité sacerdotale. Donc Jésus ne s'attribue pas à lui-même explicitement une qualité sacerdotale. Alors que les récits des évangiles n'hésitent pas, quelle que soit l'historicité des péricopes en question, à mettre sur les lèvres de Jésus des affirmations très claires qui rattachent son activité soit à celle du Messie roi, soit à celle du Fils de l'homme, soit encore à celle du serviteur avec un grand S, ou même à celle du prophète avec un grand P. Vous trouverez les références aux évangiles dans les notes. Donc, en plus, jamais les évangiles ne signalent que les auditeurs de Jésus ou ceux qui bénéficient de son action, jamais, ni les uns ni les autres, n'ont la moindre réaction qui nous ferait percevoir que Jésus est qualifié de prêtre. D'ailleurs, la famille de Jésus n'est pas une famille sacerdotale. Et quand on regarde les premiers, ce qu'on appelle en termes techniques, les kérigmes, donc ces résumés de la foi chrétienne, hein, qui sont proclamés haut et fort, hein, kérusen, dire haut et fortement, hein, les kérigmes, donc la substantifique moelle de la première annonce chrétienne, eh bien, on voit qu'on donne à Jésus le titre de Kyrios, hein, Seigneur, de Christos, hein, Christ, de serviteur, mais on ne lui donne pas, au tout début, le titre de prêtre. En fait, de sacerdoce, il n'y a, au tout début du Nouveau Testament, il n'y a que le sacerdoce du Temple, que l'on continue à reconnaître, malgré les grosses tensions, et avec laquelle les premières communautés chrétiennes ne vont pas rompre d'emblée. Dans les Actes des Apôtres, on voit Pierre et les autres monter au temple pour la prière. Si tout cela est vrai, c'est vrai. On comprend alors les grandes résistances à admettre que la fameuse lettre aux Hébreux, que l'épître aux Hébreux, où il est question de sacerdoce et de prêtre, qu'il y eut tant de résistance pour dire « ça c'est un écrit inspiré » et donc il faut le considérer comme écrit biblique. Il y a eu pas mal de tensions autour de ça. Mais pour finir, la grande Église a discerné que cela faisait partie des écrits inspirés et donc pour nous, c'est parole de Dieu, révélation. Alors, c'est très intéressant de voir le comment et le pourquoi la lettre aux Hébreux manie la catégorie de sacerdoce. Pour bien le comprendre, il faut se rappeler que cette lettre aux Hébreux, qui est superbe mais pas si facile, parce que pour bien la comprendre, elle suppose une réelle compréhension du monde juif et du monde liturgique juif, cette lettre est écrite dans une perspective entièrement sotériologique, disent les spécialistes, c'est-à-dire dans une perspective qui s'intéresse au comment et au pourquoi du salut apporté par le Nazaréen. Et dans cette perspective-là, la lettre aux Hébreux présente le Christ non pas comme celui qui vient prolonger l'institution lévitique, mais il est celui qui vient l'accomplir. Il vient accomplir l'intention de l'institution lévitique. Pour dire ça en termes tout simples, Jésus ne prolonge pas la lignée familiale des prêtres après Lévi, mais il vient réaliser ce pourquoi les Lévites existaient. Oui, il accomplit l'intention. Et la nuance est capitale, car l'auteur de la lettre aux Hébreux présente le Christ en tant que envoyé avec un grand E, que Dieu lui-même consacre grand prêtre en court-circuitant l'institution lévitique. Et donc, en fait, Jésus va devenir grand prêtre en exerçant son sacerdoce de façon transcendante et une fois pour toutes. Le fameux mot grec « ephapax », hein, une fois pour toutes. Et donc, en fait, Dieu, sous-entendu, quand on dit dans le Nouveau Testament « Otheos », dans 9,9 fois sur 10, il s'agit de celui que nous appelons le Père. Donc, quand Dieu consacre Jésus grand prêtre, si vous voulez, par rapport à l'institution lévitique, il fait un coup d'État, parce qu'il prend quelqu'un qui n'est pas dans la lignée sacerdotale pour en faire le grand prêtre une fois pour toutes. C'est le chapitre 7 de la lettre aux Hébreux. Et tel est bien le grand prêtre qui nous convenait, saint, innocent, immaculé, séparé des pécheurs, élevé au-dessus des cieux. Il n'a pas besoin, lui, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, puis pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Alors, question. Comment est-ce que l'auteur de la lettre aux Hébreux détecte, discerne le sacerdoce de Jésus de Nazareth ? Réponse, par ses fruits. Autrement dit, l'auteur de la lettre aux Hébreux lie le sacerdoce du Christ à la résurrection de Jésus. Une résurrection, encore une fois, qu'il ne faut pas détacher de son sacrifice sur la croix, mais ce n'est pas le sacrifice comme tel qui met en valeur, mais bien, une fois encore, la réponse que Dieu donne à ce sacrifice, à savoir, il le fait grand prêtre. Pas au moment de la croix uniquement, mais au moment de la résurrection. Il faut savoir que la conception biblique du sacerdoce implique que une chose est d'être le prêtre et autre chose est d'être la victime du sacrifice qu'offre le prêtre. Être prêtre, ce n'est pas être victime. Être prêtre, c'est offrir une victime en sacrifice. Deuxième chose, une chose est d'immoler la victime, autre chose est d'être le prêtre qui offre le sacrifice de cette victime. Par conséquent, l'acte formellement sacerdotal de Jésus, c'est son entrée dans le sanctuaire de Dieu avec le sang de sa propre vie. Est-ce que vous comprenez l'image ? C'est ça qu'il veut dire. L'auteur de la lettre aux Hébreux, dans une perspective du comment Jésus nous sauve-t-il, nous dit, eh bien, il prend un parallèle, il fait un parallèle avec la liturgie accomplie une fois par an lors du Yom Kippour par le grand prêtre pour obtenir le grand pardon. Et donc, le grand prêtre, ce jour-là, entrait dans le temple et une fois par an dans le sein du saint, dans le sein des saints, avec le sang d'un animal, et cela était supposé obtenir le pardon de Dieu. Ici, Jésus est représenté comme celui qui entre, non pas dans le sanctuaire terrestre, mais dans le sanctuaire céleste, avec le sang de sa propre vie, pour obtenir notre pardon à tous. Pour dire ça autrement, en s'offrant lui-même tout entier jusqu'au sang, Jésus a pénétré non pas dans le sanctuaire terrestre et national de Jérusalem, mais dans le sanctuaire des cieux. Et alors, comme grand prêtre, il entre là pour y faire entrer tous les croyants. C'est ça, me semble-t-il, le but de l'auteur de la lettre aux Hébreux. Vous savez, il y a plusieurs congrégations religieuses ont cela. On voit par exemple, je ne sais pas si c'est le cas pour les disciples de Saint Ignace, mais dans le cas des disciples de Saint Dominique ou encore de Saint Benoît, on voit des représentations, par exemple, où on voit Marie avec une immense toge, hein, un immense manteau, et le manteau est légèrement ouvert, et on voit tous des petits dominicains ou des petits cisterciens qui, en quelque sorte, sont cachés dans le manteau de Marie et qui espèrent arriver avec elle le plus près possible de son fils. Eh bien, c'est un peu ça l'idée, c'est que Jésus entre comme grand prêtre dans le sanctuaire et on est tous cachés dans son manteau pour, derrière lui, entrer auprès de Dieu. Monseigneur de Caisse, dans une conférence que pour ma part j'ai beaucoup appréciée, a insisté assez fortement là-dessus en disant que le cœur du cœur des choses, c'est que nous puissions avoir accès à Dieu. Et rappelez-vous, il insistait, seul le Christ nous donne accès à Dieu. Et donc, il nous donne accès à Dieu avec le sang de sa propre vie, pas simplement sacrifiant, mais en voyant son sacrifice accepté par Dieu. C'est très important de ne pas nous, j'allais dire un peu vulgairement, scotcher notre compréhension du salut sur uniquement la souffrance. D'elle-même, la souffrance ne sauve pas. C'est l'amour qui est dedans, et la réponse que Dieu lui donne. En bref, Jésus ressuscité à la fois donne accès et maintient l'accès à Dieu lui-même. Il est clair que un seul peut être ce prêtre. Alors, l'accomplissement par le Christ de la raison d'être de l'institution sacerdotale fait que nous sommes introduits par lui dans la communion avec Dieu, et par voie de conséquence, nous sommes à notre tour invités, comme souligne la finale de la lettre aux Hébreux, à offrir ou bien le sacrifice de louange, ou bien la bienfaisance et la mise en commun des ressources, c'est-à-dire, Hébreux 13, verset 16, les sacrifices qui plaisent à Dieu et qui représentent le culte de toute l'existence humaine, hors de tout sanctuaire. Mais la lettre aux Hébreux, qui découvre que tous nous avons accès à Dieu dans le sillage du seul grand prêtre, la lettre aux Hébreux n'en conclut pas pour autant que tous sont prêtres. Cet élément-là est vraiment extrêmement important. Le sacrifice des chrétiens sont à la fois liturgiques et existentiels, et ces sacrifices sont arc-boutés. Ils sont le fruit de l'unique acte sacerdotal au sens plein du terme, ils dépendent tous de l'unique acte sacerdotal de Jésus, fait grand prêtre par Dieu. Tout vient de lui et par lui, Hébreux chapitre 13, verset 15. Donc, il faut respecter ce silence du Nouveau Testament qui jamais ne dit qu'un chrétien est prêtre. D'une seule personne, celle du Christ, la lettre aux Hébreux affirme qu'il est prêtre, mais le prêtre avec les jumelles, si vous voulez, ou les lunettes, hein, de sa fonction salvifique. Le prêtre tirait en tant qu'instrument de salut. Car c'est bien de fonction qu'il s'agit ici. Et de ce sacerdoce tirait fonction salvifique propre à Jésus-Christ, il y a deux autres documents, les deux autres documents du Nouveau Testament qui parlent de sacerdoce, hein, ne disent pas grand-chose, car en fait, en tout, on parle de sacerdoce trois fois dans le Nouveau Testament. Dans la lettre aux Hébreux, je viens d'en parler longuement, dans l'Apocalypse et dans la première lettre de Pierre. L'Apocalypse et la première lettre de Pierre parlent du statut sacerdotal de la communauté chrétienne. Donc, ces deux écrits, et c'est ici qu'il faut faire attention parce que c'est là qu'il y a l'origine de mes compréhensions, ces deux écrits parlent de sacerdoce au niveau de la communauté des chrétiens, des baptisés. Et ces écrits nous disent que le statut sacerdotal de la communauté chrétienne lui vient de l'œuvre du Christ. Et c'est cette œuvre du Christ qui fait de cette communauté, de cet agglomérat d'individus, une communauté, c'est-à-dire un corps et un corps sacerdotal. Donc on n'est plus dans le contexte qui est hérité de l'institution lévitique, mais on est dans un contexte qui développe la grande promesse divine dans Exode au chapitre 9. Et maintenant, si vous entendez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous serez ma part personnelle parmi tous les peuples, et vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Un royaume de prêtres et une nation sainte, c'est cette promesse fondatrice que la première lettre de Pierre va reprendre en parlant de sacerdoce saint ou encore d'un peuple sacerdotal. Donc, ce qui était pour l'Ancien Testament une promesse est devenu réalité. Et la réalité, c'est l'accès effectif à Dieu. Chaque baptisé est prêtre au sens spécifique où, en Christ, il a accès à Dieu. Mais il ne faut pas oublier que l'auteur de la première lettre de Pierre parle non pas de chacun en tant que prêtre, mais il parle du peuple sacerdotal, c'est-à-dire d'une communauté, d'un ensemble de personnes. Il considère le groupe des croyants dans son ensemble et il prend les images de maison, de race, de nation, de peuple. Vous allez me dire, c'est évident, pourquoi est-ce qu'il emploie tant de salive pour dire ça? Eh bien, pour ceci, et je prends les termes du père Tillard, le sacerdoce en question, c'est autre chose qu'une collection, qu'une somme des sacerdoces de tous les croyants, comme si la communauté sacerdotale consistait en une addition de prêtres. Ce n'est pas le cas. Il s'agit en fait de la communion des croyants, de la totalité organique que forment les croyants et qui est qualifiée de sacerdotale. Ce qui est sacerdotal, c'est le corps, c'est la totalité, c'est l'ensemble en tant que communion. Vous voyez cela, je ne résiste pas à cette parenthèse, c'est que quand Jésus, dans cette grande prière, à la fin de sa vie, au chapitre 17 de l'évangile de Jean, si je me souviens bien, que les éditeurs appellent la prière sacerdotale de Jésus. Il n'y a pas le mot, ce sont les éditeurs de la Bible, c'est un commentaire si vous voulez. Il y a ce moment bouleversant, dit, Père, que tout soit un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc cette unité pour laquelle Jésus prie, cette unité, ce n'est pas uniquement une question de crédibilité statistique, l'union fait la force, mais c'est une question de signifiance, c'est au cœur de leur unité que les chrétiens exercent leur sacerdoce et dès lors sont envoyés pour dire Dieu au monde, pour visibiliser Dieu au monde, si le mot existait en français. Pour dire les choses de manière un peu plus intello, il s'agit d'un statut que le peuple de Dieu reçoit communautairement dans son être de communion. C'est vraiment, une fois qu'on l'a compris, c'est tout simple, mais me semble-t-il, c'est peu fréquemment perçu. Notre communion, notre faire corps, est doté de cet attribut-là, à savoir l'attribut sacerdotal. Et donc, le sacerdoce en question n'atteint les personnes que dans la mesure où ils appartiennent à la communion qui constitue le peuple de Dieu. Telle est la vocation de cette communauté, écrit le père Thiard. Elle ne saurait évidemment se réaliser autrement que par les membres. Elle est communion de croyants, maison spirituelle dont les pierres sont les baptisés. Encore ceci, c'est que le sacrifice du Christ et la puissance de l'Esprit-Saint et les conséquences de la résurrection sont données, soignez quatre fois au bic rouge, à la communauté comme telle. Les fruits du sacrifice de Jésus, les fruits de la résurrection, les fruits de l'Esprit sont donnés à la communauté. En fait, la communauté est donc gratifiée de ces dons-là. Et donc, c'est en entrant dans ce don commun que chacun reçoit ses dons. C'est en entrant dans le don commun que chacun reçoit les dons, les fruits du sacrifice du Christ, de sa résurrection, de l'Esprit-Saint. Et plus encore, la finalité de la démarche de chaque membre de cette communauté doit être non seulement son salut personnel, mais la fidélité à la sainte communauté, pardon, la fidélité de la sainte communauté à sa vocation sacerdotale. On est donc à mille lieues de l'individualisme. Comprenez ça. Donc, c'est vraiment extrêmement important à comprendre, me semble-t-il, ou à nous rappeler, pour bien situer le rôle de la présidence. Contrairement à ce qu'on croit trop souvent, l'Église n'est pas la somme des baptisés. L'Église est plutôt la manifestation, la visibilité de l'union de tous les baptisés dans l'indivisible Esprit du Christ. L'Église, c'est leur vie in communione qui plonge jusqu'à Dieu lui-même. Et le lieu où se voit cette unité, le lieu où se donne cette unité, c'est l'Eucharistie. Du point de vue liturgique et sacramentel, on l'a déjà dit plusieurs fois ici, c'est le rôle de l'épiclèse sur les fidèles au cœur de la prière eucharistique. J'ose à peine vous rappeler qu'il y a deux épiclèses, deux prières toutes spéciales adressées à l'Esprit-Saint, une pour qu'il sanctifie les dons et une autre pour qu'il sanctifie les fidèles qui vont recevoir ces dons, afin qu'ils constituent ensemble un seul corps. Le but de l'Eucharistie, fondamentalement, est de faire de nous encore plus le corps du Christ. Et c'est là, bien sûr, que l'Esprit-Saint joue un rôle considérable. Je vous rappelle cette belle citation de saint Augustin, « Tu vois la Trinité quand tu vois la charité. » Une formule qui souligne que la vie trinitaire, en fait, elle est accessible à tous. Je ne dis pas qu'on la comprend tous, mais on y a accès. Car la vie trinitaire se révèle comme une communion entre les trois personnes divines, et cette communion, elle est ineffable, on ne peut pas en dire grand-chose, mais cette communion est visiblement à l'œuvre dans cette réalité que saint Augustin a commentée des milliers de fois dans sa vie, le fameux « cor unum », un seul cœur et une seule âme de la première communauté chrétienne, tel que le décrit le chapitre 4 des Actes des Apôtres. Donc voilà pour la distinction entre sacerdoce des baptisés et sacerdoce des ministres ordonnés. En fait, il y a une distinction qui va se retrouver fondamentalement au niveau des pas simplement des missions, mais également au niveau de l'agir, de la fonction et du rôle. Et c'est ce qu'on va maintenant rappeler avec ce proverbe, cet axiome en théologie sacramentaire, in persona Christi, en lieu et place du Christ. Quand le prêtre célèbre, dit saint Thomas d'Aquin et la théologie scolastique après lui, il ne célèbre pas simplement au nom du Christ, in nomine Christi, mais il célèbre in persona Christi, en lieu et place du Christ. Pour bien comprendre cela, qui est aussi une formule qui a donné lieu à beaucoup de mécompréhensions, on va commencer par nous rappeler l'insistance du Concile Vatican II dans sa constitution sur l'Église, sur le fait que la vocation de l'Église, l'objet de la mission de l'Église, c'est de mettre la désunion des hommes en rapport avec l'union, l'unité plénière qui leur est acquise dans le Christ. Le but de l'Église est d'être à la fois signe et instrument de l'unité qu'a Dieu, de l'unité qu'est Dieu, et de favoriser ainsi l'accès à Dieu de tous, un accès à Dieu qui n'est pas possible sans communion mutuelle. Et dans ce lien dynamique qui est ainsi instauré entre, d'une part, l'unité de l'Église et d'autre part, l'unité de l'humanité, dans ce lien, l'Église joue un rôle de ferment. C'est le numéro 13 de Lumen Gentium. L'Église catholique tend efficacement et perpétuellement à récapituler l'humanité tout entière, avec tout ce qu'elle comporte de bien, sous le Christ-chef, dans l'unité du Saint-Esprit. Donc chef, Christ-chef, c'est le Christ-tête du corps, à caput en latin. Alors, c'est dans cette ligne-là, dans cette perspective-là, à savoir le Christ tête de son corps, le corps lui-même responsable, enfin, en tout cas, envoyé pour être instrument d'unité des membres de l'Église et aussi de l'humanité entière, c'est dans cette ligne-là qu'on peut mieux comprendre les ministres ordonnés, donc ce qu'on appelle couramment les prêtres. Les ministres ordonnés ne sont pas les acteurs uniques, ni les acteurs isolés dans l'Église. Leur vocation n'est ni individuelle, ni privée, mais leur vocation est de part en part, comme on dit, médiatisée par l'Église. C'est du reste très, très significatif à l'origine du christianisme, et pendant plusieurs siècles, à l'époque patristique, où il ne s'agissait pas de dire « je me sens appelé à devenir prêtre », mais c'était un appel de la communauté qui invitait un tel ou un tel à devenir le berger de la communauté. Il y a des scènes absolument célèbres pour souligner cette objectivité de l'appel, enfin ce qu'on appelle l'objectivité, donc le rôle de la communauté dans l'appel des pasteurs, de ceux qui seront à la tête de la communauté. Je ne résiste pas, vous savez que j'apprécie beaucoup Saint-Augustin, et donc dans sa biographie, donc on connaît les circonstances par lesquelles il est devenu évêque. Augustin, je vais essayer de ne pas être trop long. En fait, je l'aime beaucoup. Dans la vie, il faut être partisan, le tout est de savoir qu'on l'est. Mais sinon, on s'ennuie. Et donc, en fait, Augustin était... Ce n'est pas simplement un chapardeur de pommes dans son enfance. C'est un homme d'une grande brillance, à la fois au niveau intellectuel et au niveau relationnel. Il tient de l'Afrique du Nord ce caractère sociable, chaud, chaleureux, qu'il gardera toute sa vie. Quand on lit ses sermons, on devine que, d'abord, ça ne durait pas 7 minutes 30 comme maintenant, mais donc on prenait le temps, et on sent l'Assemblée réagir. Quand il parle des hérétiques, on dit « ouh !» ou quand il parle ceux qui sont revenus vers nous, tout le monde commence à applaudir. Donc, en fait, il est réactif par rapport à l'Assemblée. Et donc, cet homme, en fait, est en... Par ses compétences, certainement, mais aussi en jouant des coudes, probablement, il est arrivé à être professeur de rhétorique à Milan. Alors, à l'époque, Milan, c'était la capitale administrative de l'Empire, et la rhétorique, c'est comme le droit, ça mène à tout pourvu qu'on en sorte. Et donc, en fait, tous les grands fonctionnaires, les gouverneurs, Ponce Pilate et autres, tous les responsables de l'administration romaine, passaient par l'université impériale où Augustin tenait la chaire number one, à savoir la rhétorique. Alors, quand celui-là, ce type-là, se convertit au catholicisme, il va y avoir un impact qu'on peut deviner aisément. Et donc, quand Augustin va donc demander le baptême, il va décider de renoncer à sa chaire universitaire, il donne sa démission, et il va désirer fonder une communauté pour, dit-il, ensemble vaquer à la connaissance de Dieu et à la connaissance de soi en scrutant les Écritures. Il retourne sur les terres paternelles, et à Tagaste, il fonde une petite communauté qui, en fait, cherche à rejoindre cet idéal. Il est régulièrement invité, et avant d'aller dans un autre endroit, il commence par aller voir, est-ce qu'il y a un évêque ? Bon, alors on l'invite à Hippone, hein, parce qu'on souhaitait qu'il fonde à Hippone une autre communauté comme la sienne. Bien, il arrive à l'église, bon, il est pratiquant, hein, et puis l'évêque, un certain Valère, hein, commence son homélie. Et qu'est-ce qui va nous arriver ? Je suis si malade, je suis vieux, je connais bien le grec, mais je ne connais pas bien votre langue. Et qu'est-ce qui va devenir ? À ce moment-là, un seul cri dans l'église, Augustin, évêque. Alors Augustin se cramponne au dernier pilier de l'église, hein. Il n'y a pas moyen, donc on le traîne jusque devant l'évêque, et tout ce qu'il parvient à négocier, c'est le temps d'un carême, pour qu'il puisse, encore une fois, en scrutant la parole de Dieu, se préparer à son ordination presbytérale. Voilà un récit un peu enjolivé du caractère objectif de la vocation dans l'Antiquité chrétienne. Et donc, ça signifie, si vous voulez, que, on a heureusement retrouvé cela, mais que dans l'Antiquité, la dimension ecclésiale de la vocation était absolument fondamentale, pas simplement d'un point de vue hiérarchie ou discipline, mais d'un point de vue constitutif, si vous voulez, au niveau même de l'appel. Je ne dis pas que c'est mieux et qu'il faut faire ça maintenant, c'est pas mon affaire, ça se passait comme ça. Et on comprend mieux la place de l'Église dans le statut même des ministres ordonnés hier et aujourd'hui. Donc l'autorité qui est conférée aux ministres ordonnés ne leur vient pas du peuple, mais elle vient de l'ordination qui les situe face au peuple sans les figer dans une relation à sens unique. Alors je vais expliquer ça autrement. Par rapport au ministère des laïcs, la différence de ce qu'on appelle le presbytérat, ou le ministère ordonné, couramment le prêtre, réside en ce que le prêtre préside les célébrations, en fait, si on veut être très rigoureux, l'Eucharistie, in persona Christi. Dans son sens originel et dans son sens technique, l'expression in persona Christi, le prêtre célèbre en lieu et place du Christ, veut signifier que c'est le Christ et non le prêtre qui est l'auteur des sacrements. Mais il convient d'être attentif à bien articuler le in persona Christi avec le in persona ecclesiae, au sens où on ne saurait représenter le Christ que si on est inséré dans la communion qu'est l'Église. Et l'expression courante in persona Christi pourrait laisser cette dimension ecclésiale dans l'ombre. Il est capital. Certains vont jusqu'à affirmer, hein, je songe à Hervé le Grand, qui passe pour être un bon ecclésiologue contemporain, ce n'est pas parce que l'on recevrait un sacerdoce qu'on préside à une église, mais c'est parce que l'on reçoit la charge de présider à la construction d'une église qu'on reçoit également la charge de présider au sacrement, qui pour leur part construisent l'église. Donc, in persona Christi ne veut pas dire, comme on l'a dit dans les siècles précédents, que le prêtre est un alter Christus. Dire que le prêtre est un autre Christ, ce n'est pas cela que ça veut dire. Mais in persona veut dire que le prêtre est en rapport à la communauté des fidèles, comme le Christ tête est en rapport à son corps. Donc c'est un petit peu compliqué, mais c'est fondamental de bien comprendre ceci, pour comprendre la spécificité de la présidence de l'Eucharistie par un prêtre, par un ministre ordonné. C'est que, en fait, il s'agit d'un rapport de rapport entre deux séries de termes. Il ne s'agit pas simplement, je vais rester devant le micro pour le MP3 là qui va sortir, il ne s'agit pas simplement de dire que, de même qu'il y a un rapport entre le Christ-tête et son corps, de même, le prêtre est en rapport entre le Christ qu'il signifie et le corps qu'est l'Église. Et donc, si vous dites simplement « ce sont deux rapports identiques », ça signifierait que le prêtre est au même niveau que le Christ est, donc c'est un autre Christ. Le Christ est en lien avec son corps et le prêtre est en lien avec l'assemblée qu'il préside. Vous comprenez ? Ça, c'est faux. Ça ne marche pas comme ça. Le rôle du prêtre en tant que président est de signifier, si vous voulez, de symboliser, de représenter, de réaliser le rapport entre le Christ-tête et son corps. Et donc, chaque fois que l'Eucharistie, hein, chaque fois que le prêtre préside l'Eucharistie, il nous rappelle que que nous ne sommes pas corps sans tête. Vous comprenez ça? Donc c'est ce lien étroit entre la tête et le corps que le prêtre à la fois symbolise et réalise in persona Christi. Alors, quand on comprend cela, la présidence ministérielle in persona Christi, eh bien, l'expression sacramentelle de la présidence de l'Ecclésia, de l'Église, par le Christ lui-même. Ce point, qui est désormais bien connu, est capital. Il rappelle, entre autres, que l'englobant du ministère presbytéral, comme du ministère épiscopal, l'englobant, c'est ce qu'on appelle le pastorat. C'est la mission pastorale qui est confiée au prêtre ou à l'évêque. Et il y a de cela de multiples conséquences. D'abord, qu'un laïc ne préside pas, à proprement parler, une célébration. Les documents officiels prennent grand soin à éviter ce terme. Un laïc peut être responsable de la célébration de funérailles, il peut être assistant délégué pour la célébration d'un mariage, il peut être ministre extraordinaire pour la communion eucharistique et même pour un baptême, il peut modérer en latin, diriger une ADAP, une assemblée dominicale à l'absence de prêtre. Ces termes ne sont pas nécessairement les meilleurs. Mais en fait, il est bon d'éviter le terme de présidence comme tel, dans la mesure où on cherche à réserver un mot qui correspond à la symbolique ecclésiale de la fonction du prêtre, qui en fait rappelle, de par son sacerdoce et de par le geste qu'il pose au cœur de l'Eucharistie, ce lien unique, spécifique, difficile à cerner avec rigueur, qu'est le lien entre la tête et le corps. En ce qui concerne l'Eucharistie, on souligne volontiers aujourd'hui, et à juste titre, que tous célèbrent l'Eucharistie. Et c'est ce qu'indique le fameux « nous » qui est omniprésent dans la liturgie. Nous t'offrons, nous te supplions, nous te rendons grâce. On y a beaucoup insisté déjà jusqu'ici. C'est bien l'Ecclésia qui est le sujet de l'action liturgique. Or, comme dit la formule qui est aujourd'hui devenue un adage, si tous célèbrent, un seul préside. Et il faut bien comprendre les deux parties de cet adage. Si tous célèbrent, un seul préside. C'est un rapport non pas sociologique, mais un rapport théologique. Si un seul préside, et s'il le fait, au nom et in persona, en personne même du Christ, par conséquent, au titre du sacrement de l'ordre qu'il a reçu, si un seul préside au titre du sacrement de l'ordre qu'il a reçu, c'est précisément pour manifester sacramentellement, en clair, pour rendre possible que tous célèbrent. Si un seul préside, c'est pour rendre possible que tous célèbrent. Pourquoi? Parce qu'il est précisément, non seulement ce rappel, mais cette réalisation, au sens anglais du terme que Newman excellait à utiliser dans son œuvre, il rend présent ce lien entre la tête et le corps, sans lequel il n'y a pas d'accès à Dieu possible. Entre le Christ et nous, il n'y a pas fusion. Il n'y a pas fusion. Il y a, on n'a pas l'image de corporéité. Un corps, je vous rappelle, qui est profondément, depuis la résurrection de Jésus, imprégné d'Esprit Saint. Qui préside l'Assemblée? C'est le Christ. Et c'est précisément la fonction du prêtre de manifester sacramentellement, ou en jargon théologique, de manifester ministériellement cette présidence du Christ. Saint Augustin déjà le soulignait beaucoup. C'est le Christ qui baptise, c'est le Christ qui fait l'Eucharistie, c'est le Christ qui préside. C'est lui qui continue de prendre le pain, de prononcer la bénédiction, de le rompre et le donner comme son corps. Bref, c'est lui, Jésus, qui continue d'exercer son sacerdoce intransmissible, Hébreux chapitre 7, verset 24, sacerdoce intransmissible, au milieu et en faveur de l'assemblée. Alors, mais alors seulement, tous les participants de l'assemblée, en tant qu'ils sont membres du Christ, vont pouvoir participer à l'action liturgique par lui, avec lui et en lui. Nous ne pouvons participer à l'action liturgique que par lui, avec lui et en lui. Et d'où l'importance, à la fois, que ce soit le prêtre seul qui dit cette doxologie, mais que l'assemblée réponde par un amen relevé. C'est un amen essentiel. Et je vous rappelle, j'ai beaucoup insisté précédemment, que notre participation à la prière du prêtre ne se fait pas par synchronie, mais par communion. Il ne faut pas nécessairement dire tous les mots qu'il dit, il faut être, si possible, le plus attentif à suivre la parole qu'il dit quand il parle en nous, en notre nom. Parce que, encore cette parenthèse, dans ce qu'on appelle la prière eucharistique, la majeure partie, en tout cas au niveau longueur et au niveau statistique, est dite en nous, comme le suggère le début de la prière eucharistique, qu'on appelle le dialogue qui introduit la préface. Mais à certains moments, c'est une prière en jeu, quand le prêtre, c'est pas une prière, donc c'est, quand le prêtre rappelle le récit de l'institution eucharistique, c'est une parole où il se substitue en quelque sorte à Jésus, quand il dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». Donc, au cœur même de la prière eucharistique, vous avez cette double aspect, à la fois un aspect ecclésial, donc c'est le prêtre et l'assemblée qui ensemble s'adressent au Père, et en même temps se rappelle que l'Église, c'est inséparablement la tête et le corps, et donc à un moment donné de la prière eucharistique, le prêtre prend sur lui et se substitue en quelque sorte à la personne de Jésus lui-même en prononçant les paroles que Jésus aurait dites au dernier repas. Je dis bien aurait puisque je vous ai rappelé la fois dernière qu'il y a différentes variantes au niveau de ce que Jésus a strictement prononcé d'un point de vue historique ce soir-là. Et j'expliquais aussi à la fois la richesse et le pourquoi de cette parole uniforme dans son sens, mais pluriforme dans sa littéralité, même quand il s'agit d'enjeux comme celui-là, à savoir de fondamentalement expliciter le sens que Jésus donne à sa mort, donc, ce que nous avons vu, je crois, la fois dernière. Il me reste 10 minutes pour évoquer 3 conséquences concrètes et répondre ainsi, honorer le titre « Défi et mission du président d'une célébration ». Ce que je vais dire concerne pour une large part celui qui préside à la célébration. Donc, vous allez dire, moi, baptisé, laïc, je ne suis pas concerné par ça. Mauvaise réaction, puisque on a essayé de s'efforcer, depuis le début de nos rencontres dans ces cours de liturgie, de montrer à quel point le prêtre et l'assemblée sont imbriqués l'un et l'autre dans l'ecclésia, qui est le sujet intégral qui célèbre la liturgie. Deuxième préliminaire à mes conséquences concrètes, c'est que ce n'est pas parce qu'on est allé suivre un cours du soir à l'IET qu'il faut aller faire la leçon au curé de ma paroisse. Alors, je veux dire que c'est pas si... Bon, tout le monde peut se tromper, y compris Vinel, bien sûr, mais fondamentalement, je crois qu'il y a une réalité qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est que si vous m'avez suivi jusqu'ici, et pas simplement moi, d'autres, le cœur de l'Eucharistie, c'est cette manifestation, non pas de l'Église, mais de l'union de l'Église. Le cœur de l'Eucharistie est vraiment une question d'unité. Et l'Esprit Saint, bon, j'allais dire, il ne sait pas comment faire justement, il sait comment faire, et il a du boulot, pour que précisément ceux qui sont rassemblés autour de l'autel soient un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Donc c'est la grande œuvre de l'Esprit Saint de nous rassembler en un, pas en uniformité. et encore moins en fusionnalité, si le mot existait en français. Et donc, s'il est vrai que le cœur même de l'Eucharistie tient ou tombe avec l'unité, hein, qui est le fruit principal visé par l'Eucharistie, en tout cas du temps d'Augustin. Je fais cette troisième parenthèse, si vous me permettez, on a encore un peu de temps. C'est que, pour nous, spontanément, et Paul de Clercq l'a assez bien expliqué quand il a parlé de ce mode de présence-là de Christ dans l'Eucharistie, pour nous, très souvent, on pense que l'objectif premier de l'Eucharistie, c'est ce qu'on appelle la présence réelle du Christ dans les saintes espèces transsubstantiées. Quand vous regardez l'époque des pères de l'Église, en particulier saint Augustin, la problématique de la présence réelle ne se posait pas encore ainsi, mais pour lui, je ne crois pas me tromper, le but premier de l'Eucharistie, c'est l'unité du corps du Christ, c'est de favoriser l'union des fidèles qui célèbrent. C'est ça le grand fruit, c'est l'unité. Alors, je reviens à mes préliminaires, mon deuxième préliminaire. Si l'unité est bien le but essentiel visé par l'Eucharistie, réfléchissons à deux fois avant, entre guillemets, de manquer de charité par rapport au curé en disant « tu es nul, retourne à l'IET ». Donc, il faut aussi, comme troisième préliminaire, se dire que le concile, certes, s'est terminé en 1965, les livres liturgiques ont mis un certain temps à être mis au point, puis à être promulgués, donc en gros 1970, 70 pour les Français, il n'y a que pratiquement 40 ans, donc c'est pas beaucoup par rapport à 2000 ans. Et donc la réception d'un concile demande du temps. Donc, tous ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'Église savent que ça ne se fait pas comme ça en promulguant un texte. Il faut du temps. Et donc, il faut laisser du temps au temps. Voilà. Tous ces préliminaires étant dits, la première conséquence de ce qui a été dit, c'est que toute perspective de concurrence entre le prêtre et l'assemblée est théoriquement éliminée. Il n'y a pas de concurrence. Chacun est là en fonction de sa mission, de son être profond et foncièrement l'être foncièrement profond de tous, c'est d'être baptisé et d'accueillir cette convocation de Dieu pour qu'on ait accès à lui. Et donc, ce n'est pas une concurrence entre le prêtre et l'assemblée, c'est le contraire. Mieux est assurée la fonction présidentielle du prêtre, mieux sera réalisée la participation active de l'assemblée. Autrement dit, plus le prêtre sera dans son rôle spécifique en tant que président, plus l'Assemblée aura une offre de participation active. Reste à traduire ça dans les faits. En évitant aussi bien le laïcalisme de ses animateurs qui, à la limite, réduirait le rôle du prêtre à prononcer la prière eucharistique. Le reste, disent-ils, c'est ce qui leur revient de plein droit. Donc ça existe. Hein. Toi, tu causes au moment de la prière eucharistique, et nous, on fait le reste. Hein. C'est notre partie. D'ailleurs, il y a le Concile Vatican II. Donc c'est le premier écueil, le premier travers, le laïcalisme. Deuxième travers, c'est le cléricalisme des prêtres qui continuent à confondre présider in persona Christi avec faire à la place de l'Assemblée ou à la place de tous les autres ministres. Donc, c'est ce qu'on appelle, en termes sociologiques, one-man show. Le prêtre fait tout. D'ailleurs, je suis formé, eux n'y connaissent rien. Ça arrive aussi. Ça arrive aussi. Le troisième travers, c'est le cléricalisme des laïcs. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des laïcs qui estiment qu'en fait, ils savent bien qu'ils ne sont pas prêtres. Mais ils savent. Et les autres ne savent pas. Et donc, c'est toujours la famille une telle du village qui lit la parole de Dieu. C'est normal. C'est comme les chaises dans le temps, ça leur est réservé. Et donc, on doit être extrêmement attentif au niveau pastoral à ce qu'il n'y ait pas de mainmise sur la liturgie par un groupe de laïcs qui, si vous laissez faire ça, vont devenir cléricaux, dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire qu'ils vont devenir comme s'ils avaient un certain pouvoir, si vous voulez. Et d'un point de vue pastoral, c'est ça qui fait fuir les gens le plus. C'est pas comme on croit, enfin ça vaut ce que ça vaut comme on remarque, c'est pas le manque de charité qui fait s'enfuir les gens d'abord, c'est le pouvoir. Et donc, je ne sais pas si vous avez déjà dit ça ici, dans une des nombreuses parenthèses, hein, ce psychiatre new-yorkais qui m'a dit un jour, le contraire de l'amour, c'est pas la haine, c'est le pouvoir. Et je crois que c'est très juste ça. Et chez nous, ceux qui se réintéressent, je songe à des jeunes familles, hein, qui se réintéressent à l'église parce qu'on a baptisé le gamin ou parce que l'enfant, le tout petit, demande à faire sa première communion et il s'intéresse. Et donc, quand on sent que des personnes mettent la main sur... Donc, la concurrence entre le prêtre et l'assemblée est théoriquement éliminée. En pratique, ce n'est pas simple. Deuxième conséquence concrète. Il faut souligner que in persona Christi ne peut se comprendre que dans le sillage de in persona ecclésiae. Pour dire ça en français, présider au nom du Christ ne peut aller que de façon concomitante avec le au nom de l'Église, dans la mesure où celui qui préside n'est pas le Christ en soi, pris de manière isolée et donc de manière imaginaire. Celui qui préside, c'est le Christ pour nous. Autrement dit, c'est le Christ pascal qui est ressuscité pour nous et qui est mort pour nous. Et qui, le Christ pascal, qui en fait, et c'est ce que montre très 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 clairement l'épiclèse sur l'assemblée dans la prière eucharistique, qui est en acte de constitution et de vivification de son corps ecclésial par l'Esprit Saint. Celui qui préside, c'est pas Jésus, le Jésus des Béatitudes, qui sillonne la Galilée par monts et par veaux. Celui qui préside, c'est le Christ pascal, ressuscité avec son corps glorieux, où nous sommes insérés par l'action de l'Esprit Saint. Il n'y a pas de présidence possible sans l'Église, entendu au sens de corps du Christ, dont le Christ est la tête, mais ce n'est pas une tête sans corps. Vous allez me dire, c'est très théorique. En fait, c'est extrêmement concret ceci. Hein. Ça veut dire que pour les équipes liturgiques, c'est impensable de préparer une célébration liturgique en n'étant pas à la fois attentif et à la présidence et à l'assemblée. Et ce n'est pas toujours simple parce qu'il y a la résistance de la part de certains prêtres en disant « Mais mon job, je le connais, ce n'est pas la peine. Hein. On va s'occuper de l'étude de la parole, de l'envoi, etc. » Il faut prendre le tout. Enfin, troisième conséquence concrète, quand le président de la célébration intervient pour un geste ou une prise de parole, il n'est jamais tout à fait en direct. Quand le président de l'Assemblée intervient, que ce soit par une parole ou par un geste, il n'est pas en direct. Je veux dire ceci, entre lui et l'Assemblée, il y a ce qui lui est donné à faire, ce qu'il est donné à dire. Il y a entre lui et l'Assemblée le vêtement qu'il porte, enfin qu'il devrait porter. Mais ça va mieux maintenant, me semble-t-il. Il y a moins de prêtres qui célèbrent comme ça, en jeans et en col ouvert. Enfin, c'est leur droit, mais c'est quand même préférable d'avoir une aube et une étole. C'est nettement préférable. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un détail. Nous ne sommes pas propriétaires de la liturgie. Et quand le prêtre célèbre, il le fait à la fois in nomine Christi et in persona ecclésiae. Et donc, il n'est pas en direct avec l'Assemblée. Il y a entre l'Assemblée et lui, non pas une cloison, mais il y a un donné à dire, à faire, un vêtement à porter. Et ce donné rappelle au président qu'il représente, il représente ce lien entre la tête et le corps. Il y a le lieu d'où il parle. Il y a le livre, il y a l'autel, il y a le pain qu'il a sous les yeux. Et c'est à partir de tous ces supports-là qu'il lui est donné de présider. Et donc, c'est d'abord au prêtre à s'ajuster à ces supports-là, à leur donner vie, à leur donner lumière, parce que ces supports sont doués d'une logique propre. C'est toute la question du rite dont on va beaucoup parler par la suite. Le prêtre, en fait, pour dire ça en termes un peu provoquants, manage des rites. Il n'est pas coucou, c'est moi, ok, hein, la messe de Père Tartampion. En fait, il manie des rites, et des rites non plus n'est pas propriétaire, encore moins de leur fonctionnement. Et donc, pour pouvoir ainsi manier ces rites, pour pouvoir représenter ce lien entre la tête et le corps, cela suppose, chez le président, un effacement, ou encore, j'aime beaucoup ce mot, une déprise. Une déprise. Il n'a pas à mettre la main sur. Le rite, hein, le travail du rite, ce n'est pas le président qui l'opère. C'est le rite lui-même qui opère le travail. Et le président en est une composante. Ni plus ni moins. Et pour que la demeure rituelle soit habitable par tous, pour que les mots, pour que les gestes, pour que les choses deviennent le bien commun des participants en tant que tels, pour que les mots, les gestes, les choses deviennent le support de la prière des participants, il importe que le président veille à la non-saturation de la mise en œuvre des rites. Et je prends ça à Michel Skouarnec, saturation, il l'emploie au sens qu'on utilise dans les communications. C'est l'usage des potentiomètres. Hein. L'art de présider requiert un bon usage des potentiomètres, autant internes qu'externes. Il faut trouver le juste niveau, à la fois sonore et visuel, de son comportement. Et donc, c'est tout l'art, chez le président, d'habiter les gestes qu'il pose. Et je termine par ceci, d'expérience, cette inhabitation des gestes liturgiques est hautement facilitée et peut-être même rendue possible par la dimension priante de l'assemblée. Parce que le prêtre et l'assemblée forment un seul sujet liturgique. Et l'assemblée, par son attitude, peut profondément influencer celui qui préside pour qu'il rejoigne le cœur de sa mission, qui est bien, je le dis une fois de plus, qui est bien de signifier, de réaliser le rapport entre le Christ-tête et son corps. Voilà, on va faire un petit break ici. Pour ceux qui s'en vont, jeudi prochain, c'est le cardinal Danese qui viendra nous parler de la religion populaire.